Vous écoutez, on lit pour vous.
Un renouveau pour les langues autochtones. Un texte de Cristiano Pereira, paru le 30 août 2022, dans l'Aquilon, des territoires du Nord-Ouest. Un programme d'apprentissage linguistique en immersion contribue à la guérison des peuples autochtones. Les langues autochtones au territoire du Nord-Ouest dorment depuis des décennies et essaient de se réveiller. Grâce au programme Mentor-apprenti, une méthode d'apprentissage linguistique par laquelle une personne parlant couramment une langue, le mentor, l'enseigne à un apprenant, l'apprenti, dans un environnement d'immersion. Le programme, lancé en 2019 par le gouvernement, surprend maintenant les responsables. Nous pensions qu'il ne s'agissait que d'un programme d'acquisition d'une deuxième langue, mais maintenant, on se rend compte que nous contribuons aussi à la santé, au bien-être et à la guérison des peuples autochtones, a déclaré Angela James, la directrice du secrétariat de l'éducation et des langues autochtones du gouvernement des TNO. « Nous ne le savions pas », admet-elle. Les participants nous disent qu'il s'agit d'une forme de revitalisation et de réconciliation. Ils supposent aussi qu'ils développent une identité plus forte avec leur culture et se rapprochent de leur famille, de leurs aînés, ajoute Angela James. Le responsable du programme s'est entretenu avec l'Aquilon lors du dernier atelier de la saison dans la région de Yellowknife, qui a eu lieu la semaine dernière au Aurora Tipi Lodge, quelques kilomètres sur la route Ingraham. Ce que nous avons appris ces dernières années, c'est que les participants veulent avoir la formation sur le terrain. C'est pourquoi nous sommes ici. Le programme cherche à aider les apprentis à améliorer leur capacité de comprendre et de parler leur langue. Bien que la lecture et l'écriture soient des compétences importantes, il est essentiel de comprendre et de parler la langue pour bien la maîtriser. Le programme se concentre donc sur la langue parlée, lit-on dans un communiqué du secrétariat de l'éducation et des langues autochtones. L'idée est que le mentor et l'apprenti passent beaucoup de temps ensemble, normalement entre 7 et 10 heures par semaine. L'immersion doit inclure toutes les interactions dans les activités quotidiennes sans avoir recours à l'anglais. Le but est de mettre un mentor fluide avec un apprenant engagé et qu'ils passent 200 heures ensemble, explique Angela James. Toutefois, elle souligne qu'il faut bien plus que cela pour que le plan réussisse. L'apprenti doit aussi passer beaucoup de temps à faire ses devoirs, à se fixer des objectifs, à préparer le plan et à faire des rapports, explique-t-elle. Pourtant, il ne faut pas s'attendre à des miracles immédiats. Ils ne parleront pas couramment au bout d'un an. Il faut du temps pour apprendre les langues, commente Mme James, révélant que les résultats arrivent pas à pas. La directrice du secrétariat de l'éducation et des langues autochtones rappelle que le programme s'adresse aux adultes plus de 18 ans, pendant que les plus jeunes apprennent leurs langues autochtones avec d'autres programmes dans le système scolaire, où les enseignants sont formés afin d'améliorer l'enseignement des langues. Les adultes d'aujourd'hui n'ont pas eu cette possibilité. Ils sont donc ce que Angela considère une génération perdue. Il n'y avait aucun programme dans les écoles des TNO pour revitaliser leur langue, indique-t-elle. Le programme Mentor-apprenti se présente pour offrir cette opportunité aux apprenants adultes d'éveiller leur langue. Nous venons d'une époque, au XXe siècle, où c'était très dur pour les langues autochtones. Beaucoup de gens ont eu honte et ont été punis pour avoir appris leur langue au siècle dernier, raconte Angela James. Assise à son côté, Priscilla Canadien, une apprentie de Déné Zatier, secoue la tête en signe de confirmation. Elle avoue qu'elle l'a senti dans sa peau. « Je vivais avec mes parents dans le bois et la langue était présente durant mon enfance », se souvient-elle. Mais en grandissant, si quelqu'un me disait quelque chose de négatif, tout d'un coup, la langue se fermait. c'est maintenant, plusieurs années plus tard, que Priscilla commence à retrouver sa langue maternelle. « C'est comme réveiller l'enfant sur moi », confie-t-elle. Maintenant, Priscilla a l'intention de partager cela avec mes enfants, la famille et les autres membres de la communauté. La directrice du programme applaudit la motivation de Priscilla et dit qu'elle est un brillant exemple d'apprenti. Ce que font les peuples autochtones, c'est de se rassembler, et ils sont si résilients qu'ils n'ont pas perdu leur langue, même si au XXe siècle, les gouvernements et autres voulaient essayer d'éradiquer les langues autochtones. Mais ces langues, souligne Angela, sont toujours là, ce qui montre la résilience, la force et leur spiritualité. Une aînée m'a même dit que les langues ne meurent pas. Elles s'endorment simplement en attendant que les individus, la communauté et les générations les réveillent, raconte Angela James. Lancé en 2019, le programme a connu de nombreux défis en cours de route, mais aussi des points de réussite. Le programme est ouvert aux apprentis de tous les niveaux, du débutant au locuteur plus expérimenté. Tous les adultes âgés de 18 ans et plus sont admissibles, mais la priorité sera accordée aux demandeurs autochtones qui résident au territoire du Nord-Ouest. Le programme comprend 6 langues autochtones. Inuvialuktun, Gwich'in, Esclaves du Nord ou Dene Kede, Dene Zatié, Tishtchik et Dene Suiliné. Un communiqué du gouvernement assure que tant le mentor que l'apprenti sont rémunérés pour le temps qu'ils ont à travailler ensemble sur la présentation du compte-rendu des progrès de l'apprenti dans le cadre du programme Mentor-apprenti. C'était Un renouveau pour les langues autochtones, un texte de Cristiano Pereira, paru le 30 août 2022 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest.
Une recette pour mieux vieillir à la maison. Un dossier de Stéphanie Gramont, paru le 16 juin 2024 dans La Presse. Une pointe d'humanité pour garder les aînés à la maison. Ne parlez pas à Guy Trottier de quitter son logement. Comme la grande majorité des aînés, il veut vivre le plus longtemps possible à la maison. Ici, dans cet immeuble qu'il habite depuis plus de 25 ans, au cœur du quartier Saint-Roch, à Québec. Mais lors d'un séjour à l'hôpital pour une opération d'un jour à la vésicule biliaire, deux femmes se sont présentées à son chevet. Bien vite, il a compris. « Je pense que vous voulez me placer ?» leur a-t-il lancé défiant. « Pas question !» Et il est rentré chez lui. « Je suis bien. Je ne veux pas aller ailleurs. » me raconte l'homme de 87 ans en se levant d'un coup de son fauteuil, fier de me prouver la vigueur de ses jambes. Si Guy Trottier a repris des forces, s'il parvient à vivre seul à domicile, c'est en bonne partie grâce à Marie-Josée Girard, qui travaille comme navigatrice au service amical Basseville, un rôle précieux qui gagnerait à se répandre à la grandeur du Québec. C'est elle qui a démêlé ses papiers d'impôts pour fournir l'information nécessaire afin qu'il conserve son loyer à prix modique qu'on menaçait de lui retirer. C'est elle qui l'a inscrit à un service de popote roulante qui lui livre des repas 5 jours par semaine afin qu'il s'alimente mieux. C'est aussi Marie-Josée Girard qui a accéléré les démarches pour qu'il consulte un physiothérapeute. Depuis, il fait des squats en lavant la vaisselle. En s'appuyant sur le lavabo, il doit plier les genoux. Après 3 séries de 10, les assiettes sont propres et les cuisses reprennent du tonus. « Pour marcher, j'ai de moins en moins de misère », confirme Guy Trottier, qui réussit maintenant à sortir avec son déambulateur pour aller à l'épicerie et prendre l'air. On est loin de l'homme chambranlant qui tombait de son lit. « Je cherchais à camoufler ça », avoue-t-il en blâmant son orgueil. Mais les signaux d'alarme n'ont pas échappé au livreur de la popote qui joue le rôle de sentinelle. Les sentinelles et les navigateurs sont les deux rôles clés d'une formule novatrice de gériatrie sociale lancée par un médecin hors du commun, le docteur Stéphane Lemire. Le service amical qui offre de l'aide à domicile depuis 45 ans dans la basse ville de Québec lui a servi d'incubateur, en quelque sorte. Aujourd'hui, on compte 6 projets de gériatrie sociale dans tout le Québec. Bientôt, il y en aura 20, a annoncé la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, qui présentait, il y a 2 semaines, un plan d'une 100aine de mesures pour faire face au vieillissement de la population. Tant mieux, car la gériatrie sociale fait des petits miracles. La Fondation AGES du Dr Lemire a formé quelques 6000 sentinelles pour repérer les signes de vieillissement anormaux chez les aînés et alerter les navigateurs qui peuvent ensuite épauler les aînés. C'est ainsi que Marie-Josée Girard a trouvé une médecin de famille pour Pierrette Bergeron qui nous accueille d'un pas plutôt alerte dans son appartement. Avant, j'essayais de me lever de ma chaise et je me sentais comme une mémère de 90 ans, plaisante la dame, qui en a seulement 82. Madame Bergeron avait aussi des ennuis avec ses voisins qui se plaignaient qu'elle faisait trop de bruit. La navigatrice a compris qu'elle faisait jouer la télévision trop fort à cause d'un problème d'audition. Pour qu'elle baisse le volume, elle lui a d'abord prêté un amplificateur vocal qu'elle place sur ses oreilles. Puis, elle l'a convaincue de consulter un spécialiste qui lui a fabriqué des appareils auditifs. Au départ, Pierrette Bergeron était réticente. « J'en avais eu plus jeune, et je trouvais ça tellement lourd que je les avais jetés », m'explique la dame, tandis que la navigatrice en profite pour s'occuper de son téléphone défectueux. Tous ces petits gestes font une grande différence. Si les gens entendent mal, si leur téléphone est brisé, c'est bien difficile d'obtenir les soins appropriés. En nouant un lien de confiance avec les aînés et en étant attentifs à leur environnement global, les navigateurs trouvent souvent des solutions simples qui désamorcent les problèmes. Les services actuellement ne sont pas configurés pour réellement répondre aux besoins de la personne, mais pour s'occuper d'un problème X qui est censé se régler rapidement avec juste une pilule, déplore Marie-Josée Girard. La gériatrie sociale sert de trait d'union entre les aînés et le système de santé. Elle est le liant d'un réseau qui comporte bien des failles. Vous écoutez une recette pour mieux vieillir à la maison, un dossier de Stéphanie Gramont, paru le 16 juin 2024 dans La Presse. « Je suis inquiète, » dit Marie-Josée Latouche, parmi les trop rares médecins de famille qui se consacrent aux visites à domicile de patients vulnérables. « Est-ce qu'on est capable de servir toute cette population vieillissante-là qui va avoir besoin de services? » Pour elle, la gériatrie sociale peut prendre le relais quand la médecine arrive à ses limites, parfois pour des raisons banales. Si je me tourne vers la gériatrie sociale, j'ai une excellente réponse. Et cette réponse-là, je ne sais pas où j'irai la chercher ailleurs, dit-elle. Pour l'une de ses patientes, par exemple, la médecin n'arrivait pas à obtenir des prises de sang depuis des années, ce qui l'empêchait de faire le suivi de maladies importantes. Elle avait peur des piqûres, explique la navigatrice. Marie-Josée Girard a pris les choses en main. En sécurisant la patiente, elle a réussi à prendre une première prise de sang avec un infirmier très patient. Par la suite, elle a accompagné à un centre de prélèvement la dame qui a fini par dire « Ça s'est bien passé, je pourrais revenir ici toute seule. » Depuis, la médecin peut faire un suivi adéquat. Comme quoi les aînés ont parfois besoin de soins de santé de pointe pour garder la forme. Mais souvent, ils ont juste besoin d'une pointe d'humanité pour garder leur autonomie. Des alliés pour les aînés. Gériatrie sociale. La Fondation AGES, fondée à Québec il y a 10 ans, a développé un modèle de gériatrie sociale qui repose sur la formation de sentinelles et de navigateurs provenant du milieu communautaire. Sentinelles, ce sont des travailleurs ou bénévoles qui offrent déjà des services, exemple ménage, popote, aux aînés. Leur rôle est de déceler les signes de vieillissement anormaux et d'avertir un navigateur. Navigateur. Fort d'un bagage psychosocial, exemple technicien en travail social, psychoéducateur, les navigateurs nouent un lien de confiance avec les aînés, font des observations structurées et trouvent des solutions ou des ressources pour les aider. La canne de pèlerin du docteur Lemire. Ce n'est pas pour rien que Stéphane Lemire a reçu un bâton de pèlerin en cadeau. Une canne de pèlerin, pour être plus exact. C'est le symbole parfait pour montrer tout le chemin que le médecin a parcouru depuis le lancement de sa fondation AGES il y a 10 ans. Il fallait drôlement y croire pour quitter un poste de gériatre à l'hôpital afin d'inventer une formule de gériatrie sociale qui irait au-devant des besoins des aînés. Le docteur Lemire se disait « Je suis sorti de l'hôpital. À cette heure, il faut que je sorte la gériatrie de l'hôpital aussi. Il faut que je cherche comment faire. Est-ce que je peux chercher chez vous? » raconte Michel Hamelin, assis à la table de la salle commune du service amical Basseville, dont il préside le conseil. Un gériatre qui tombe du ciel? Incroyable! L'organisme du quartier Saint-Roch lui a ouvert ses portes. Stéphane Lemire y a été chauffeur. Il a livré de la popote. Il a rencontré des aînés dans toutes sortes d'activités. Ce qu'il cherchait, c'était une façon de permettre aux aînés de rester à domicile, comme Mme Gordon, 93 ans, qui était sa voisine lorsqu'il étudiait à Londres. Avec des services, elle se débrouillait toute seule, malgré des problèmes cognitifs sévères. Mon rêve, c'est que toutes les Mme Gordon du Québec, dont toutes les Mme Tremblay, puissent rester chez elles, m'explique le médecin. La formule de gériatrie sociale que Stéphane Lemire a mise au point repose sur le repérage des signes anormaux de vieillissement et la coordination des services. L'objectif est d'agir dans la communauté en amont des structures institutionnelles. Avec l'âge, les gens mettent tout et rien sur le dos du vieillissement. Aussitôt que ça va moins bien, ils se disent « Ah, c'est pas drôle vieillir !» au lieu d'être proactifs et d'aller chercher une réponse à leurs problèmes, raconte le gériatre. En formant des sentinelles qui travaillent déjà auprès des aînés, la Fondation AGES réussit à lever des drapeaux rouges. Un exemple? Ce monsieur qui avait des vertiges et des bleus un peu partout. Alerté par une sentinelle, le docteur Lemire a constaté que ses ennuis était causé par l'interaction entre ses médicaments. 2 semaines plus tard, je l'amenais faire une sortie nature au Cap Tourmente, s'exclame Michel Hamelin, qui craint qu'autrement, l'homme aurait pris la route des urgences en ambulance. On compare souvent la gériatrie sociale du docteur Lemire avec la pédiatrie sociale du docteur Julien à Montréal, dont certains comportements qui ne sont pas directement liés à son approche clinique, ont été récemment dénoncés. Eux, ils ont créé une clinique de pédiatrie sociale. Nous, c'est très différent. On amène de l'expertise dans des organismes existants en gardant les services cliniques dans le réseau public. On ne veut pas créer un réseau privé et philanthropique en parallèle, explique le Dr Lemire. Les sentinelles viennent du bassin des entreprises d'économie sociale en aide à domicile, EESAD, qui compte déjà quelque 10 000 préposés partout dans la province. Toutes ces personnes qui font le ménage ou la popote chez les aînés sont les mieux placées pour les voir décliner. D'accord, mais ensuite, comment faites-vous pour leur dénicher des services alors que le Québec ne parvient à offrir que 10 % des heures de soins à domicile requises, selon le constat très sévère de la commissaire à la santé et au bien-être? On navigue, me répond Marie-Ève Carpinteri, qui a justement été formée comme navigatrice par la Fondation AGES. Son rôle est de prendre le relais des sentinelles, de créer un lien de confiance avec l'aîné et de le guider vers le système qui ressemble à un labyrinthe ou à un grand trou noir qui aspire toute la lumière, ironise Geneviève Dubé, directrice générale du service amical. Vous écoutez une recette pour mieux vieillir à la maison. Un dossier de Stéphanie Gramont, paru le 16 juin 2024 dans La Presse. La ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, veut redonner aux CLSC leurs lettres de noblesse et en faire une porte d'entrée unique pour les aînés. Fort bien! Mais les sentinelles de la gériatrie sociale peuvent aussi agir comme des milliers de portes d'entrée, directement sur le terrain. Et les navigateurs peuvent régler une partie des problèmes eux-mêmes, ce qui désengorge le système surchargé. Leur intervention suit le principe de la subsidiarité que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a pris soin d'inscrire dans son projet de loi 15 qui a mené à la création de Santé Québec. Ce principe veut qu'un expert n'accomplisse que les tâches qu'il ne peut déléguer à un intervenant plus près de la base. Pas besoin d'un gériatre pour prendre la pression. Pas besoin d'une infirmière pour ranger la carpette sur laquelle l'aîné risque de glisser, ce qui préviendra une chute qui coûterait des dizaines de milliers de dollars en soins de santé. Nous, on peut faire ça. On peut tabler davantage sur les ressources de la communauté au lieu de mobiliser les ressources hospitalières, dit Geneviève Dubé, directrice générale du service amical Basseville. Avec le vieillissement de la population, on n'a pas le choix. Il faut s'organiser autrement. Le statu quo n'est plus tenable. Si on est toujours en réaction pour des problèmes sur lesquels on agit trop tard, on n'y arrivera jamais, croit Stéphane Lemire. Mais l'innovation en santé se fait mener la vie dure au Québec. Prenez le modèle Prisma, qui avait aussi l'ambition d'offrir une porte d'entrée unique aux aînés. Le projet avait été déployé à 70 % au Québec en 2014. Il avait montré son efficacité pour améliorer l'autonomie et réduire les visites aux urgences. Puis, il a périclité à cause du manque de financement et des réformes de structure. La gériatrie sociale du Dr Lemire ne mérite pas ce triste sort. Le projet constitue un bel exemple de repérage et de coordination, selon la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay. Au Danemark, qui est le paradis des soins à domicile, le repérage est tellement ancré dans les mœurs que toutes les personnes de 75 ans et plus ont droit à une visite annuelle. À partir de 81 ans, l'exercice est même obligatoire. On va souvent à l'autre bout du monde, de la Scandinavie au Japon, pour s'inspirer des programmes sociaux innovants. Mais on gagnerait aussi à apprendre de ce qui se fait à Québec et qui fonctionne à merveille. le labyrinthe des soins à domicile. Le système de soins à domicile est un écosystème complexe et peu performant, où une multitude de fournisseurs agissent en vase clos. Avec le vieillissement de la population, le statu quo n'est plus possible. Visite guidée de ce labyrinthe où les usagers se retrouvent trop souvent dans l'impasse. D'ici 2031, tous les baby-boomers auront franchi la barre des 65 ans. Mais la croissance sera encore plus forte chez les 85 ans et plus, dont la proportion va quadrupler en 50 ans. 22 % proportion des dépenses en soins de longue durée que le Québec consacre aux soins à domicile. On est loin des champions comme la Norvège, 54 % le Danemark, 46 % et la Belgique, 45 % Source, commissaire à la santé et au bien-être. 259 $ par habitant. Somme investie au Québec en soins à domicile et en soins communautaires, ce qui le classe en avant-dernière position parmi toutes les provinces, bien en dessous de la moyenne canadienne, 293 $. Source, Institut canadien d'information sur la santé. 3,2 milliards. Somme dépensée par Québec pour les soins à domicile en 2021-22. Il s'agit d'une augmentation de 72 % par rapport à 2015-2016. Mais les services n'ont pas suivi. 10,7 % taux de réponse du système de soins à domicile du Québec, qui livre à peine 25 millions d'heures par année, alors qu'il en faudrait 235 millions. Plus de 59 % la liste d'attente pour les soins à domicile a allongé de 59 % en 5 ans. 21 % plus d'un Québécois sur 5 joue le rôle de proche aidant auprès d'un aîné, ce qui place un grand poids sur les femmes, qui forment 58 % des proches aidants. Source, Observatoire québécois de la proche aidance. C'était une recette pour mieux vieillir à la maison, un dossier de Stéphanie Gramont, paru le 16 juin 2024 dans La Presse.